parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 32 du livre de la Genèse. On a vu vendredi soir au travers de Caleb que pour conquérir ce pays que Dieu leur donnait, il convenait d'être animé d'un autre esprit. Et Caleb était animé d'un autre esprit. Et on a souligné différents points là. Et là, ce matin, on va regarder toute autre chose à partir de la rencontre, parce que pour le coup, on pourrait le qualifier de « c'est la rencontre » de Jacob avec l'Éternel. Voilà. Donc Genèse chapitre 32, verset 24. « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est en l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Et on pourrait intituler ce message, « Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur » ou « Le combat de notre vie qu'il ne faut pas perdre ». Et dans notre vie, il y a des passages comme ça qui prennent la forme d'un combat. Et ce combat-là, ces combats-là, il ne faut pas les perdre. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre une confrontation pareille. Il faut à tout prix gagner. Il faut gagner le combat contre la maladie. Il faut gagner le combat contre la dépression. Il faut gagner le combat dans le domaine de la vie spirituelle. Alors, on y va. Jacob est issu d'une lignée de croyants. Ça peut aider à mener certains combats. Mais pour autant, on est quand même tous logés à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'il est issu d'une lignée de croyants qu'il est plus croyant que les autres, qu'il va être plus béni que les autres et que sa vie chrétienne et spirituelle sera différente des autres. D'ailleurs, elle ne sera même pas différente des autres de ce monde. Ce n'est pas donc parce qu'on est issu d'une lignée de croyants que notre chemin sera différent. Alors, je vais vous dire quelque chose maintenant que peut-être vous ne savez pas. Alors, c'est pour ça que j'ai les preuves. Il avait 15 ans, il a connu papy Abraham. Il avait 15 ans quand papy Abraham est décédé. Alors, je vous donne les références. Abraham vécut, Genèse 25:8, 175 ans, gardez-le en mémoire. À quel âge a-t-il eu Isaac ? Il avait quel âge quand Isaac est né ? Parlez plus fort, ou alors c'est moi qui n'entends pas. 100 ans, alors c'est moi qui n'entends pas, voilà. 100 ans. Et il a eu donc Isaac à 100 ans. Et Jacob a eu, Isaac a eu Jacob à 60 ans. Donc, papy Abraham en avait 160 quand Jacob est né. Eh oui. Donc, quand il est mort à 175 ans, papy Abraham, Jacob avait 15 ans. C'est un détail, c'est pas déterminant du tout. Mais je me dis que quand même, ça souligne un point, c'est que cet ado a grandi dans un contexte particulier, parce que c'est quand même la famille d'Abraham, le père des croyants, une descendance avec un saut de spiritualité qui est particulier. Il connaît l'histoire d'Abraham parce que je suis sûr que dans les tentes, dans les couloirs des tentes, ça a dû discuter. Sur depuis quand Abraham a été appelé par Dieu, ce qui s'est passé quand il est allé en Égypte, quand il est revenu, puis Agar, Ismaël, puisque de toute façon Ismaël est dans le secteur. Donc il en a forcément entendu parler. Et puis comment Abraham, papy Abraham, a envoyé son serviteur chercher celle qui sera sa maman, Rebecca. Et comme on en avait parlé, ce signe que Eliezer avait demandé, donc il baigne depuis qu'il est tout petit, Parce que s'il y a des familles dans lesquelles on parle, chez les Juifs, ça parle. De la famille en particulier. Et donc, il a baigné dans cette marmite d'ordre spirituel avec un père qui s'appelle Isaac, un grand-père qui s'appelle Abraham. Excusez du peu. Voilà. Et ce n'est pas pour autant qu'il va mener sa vie d'une manière exemplaire, en tout cas au départ. C'est pour cela que pour lui, comme pour tous, il faudra une rencontre personnelle qui a lieu dans Genèse 28, ou plutôt qui commence à avoir lieu dans Genèse 28, verset 10, lorsqu'après avoir trahi, trompé son père, son frère, sur l'instigation de la maman, comme quoi, on a beau parfois être dans une famille de croyants, on y trouve des choses qui ne devraient pas y être. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Dieu lui parle de bénédiction, et quelle parole il reçoit. Et lui, il répond avec des conditions. Si, parfois on s'adresse à Dieu, heureusement que le Seigneur est souple et compréhensif. Il nous parle d'une manière extraordinaire et nous nous permettons de mettre des conditions. Et oui, Jacob s'est permis de faire cela. Il va même lui parler de la dîme, mais toute la parole de Jacob, c'est une parole de religieux. Et il faut que les choses changent. Alors, il faudra du temps, il faudra une vingtaine d'années lorsqu'il reviendra. Et c'est à ce moment-là que nous avons lu tout à l'heure que les choses changeront. Mais pendant une partie de sa vie, il est croyant version religieux. Il sait que Dieu est au ciel et de plus, il lui en a parlé. Il sait de quelle famille il est issu, mais ce n'est pas pour autant que sa vie est empreinte d'une onction particulière. Pour qu'il y ait l'onction de Dieu, elle est la même pour tous, issue d'une famille de croyants ou venant d'un monde sans Dieu, et parmi nous ce matin, il y a les deux, eh bien, il faut qu'il y ait cette rencontre avec Dieu dont on va parler, ce sceau de Dieu, cette marque de Dieu, et l'un comme l'autre sera béni de la même manière. Il n'y a pas de question d'héritage dans le domaine spirituel. Voilà. Jacob demeura seul. Et c'est le moment que le Seigneur attendait depuis longtemps. Ça fait plus de 20 ans que Dieu attend cette rencontre avec Jacob. Dieu lui a déjà dit qu'il le bénirait. Et maintenant vient le moment d'être béni de la part de Dieu. Et il y a des temps dans notre vie qui doivent être ceux d'une rencontre avec Dieu, mais où nous devons être seuls. Seuls dans sa tête, seuls dans son cœur, seuls dans ses pensées. Entre dans ta chambre et prie Dieu et ferme la porte pour que toi et lui, vous soyez seuls. Devant l'éternité, on est seul à décider. Prenez l'exemple des brigands sur la croix. Voilà. Il y a des moments importants de notre vie où il faut que l'on soit seul. Voilà. Et on ne peut pas se cacher derrière personne. Et un homme lutta avec lui. qui nous fait apparaître une chose forte, c'est que l'ennemi n'est pas son frère. Et pourtant, il nous fait comprendre, Jacob, que ce retour avec la rencontre inévitable de son frère, basé sur ce que Jacob lui a fait, pour lui, c'est un énorme problème. Comment s'en sortir dans cette situation ? Nos problèmes ne sont rien pour Dieu. L'ennemi de Jacob n'est pas son frère. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu s'occupera de nos affaires. Quelle qu'en soit l'importance, quand bien même ce serait la rencontre de notre vie entre deux frères, le combat de notre vie, parce que, contre toute attente, le combat que Jacob doit mener n'est pas avec son frère ou contre son frère, il est avec Dieu contre lui-même. Et c'est ça qui ressort de ce point. Celui qui doit être vaincu, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. Et ça, c'est une vérité spirituelle. Il y a des ennemis dans ce monde qui nous en veulent. Il y a des situations qui sont compliquées pour nous et pour lesquelles nous ne savons pas comment il faut se battre, s'en sortir, se battre dans le sens où il va falloir faire quelque chose de fort, d'important. Remettez ces situations à Dieu et vous rencontrez Dieu seul à seul. Et est-ce que parfois le Seigneur ne se cacherait pas? Parce qu'on ne voit pas le visage de cet homme qui lutte avec Jacob. Est-ce que parfois le Seigneur ne se cacherait pas derrière des personnes qui nous combattent pour faire remonter en nous ce qui ne va pas? Et ça, on ne s'y attend pas. Nous, on est la tête dans le guidon. Seigneur, aide-moi à rencontrer mon frère. Oui, de toute façon, il faut que je t'aide, parce que vu ce que tu lui as fait à ton frère, tout seul, tu n'y arriveras pas. Et non seulement je vais t'aider parce que tu es en faute totalement, donc je vais t'aider, mais je vais t'aider parce que ce combat, il est plus fort que toi. Mais je vais t'aider parce que tu n'en es pas conscient, je te l'ai déjà dit, mais tu n'as pas saisi, Jacob. Je vais t'aider parce que je ne veux pas simplement me limiter à t'aider, à te bénir pour rencontrer ton frère. J'ai des projets pour toi. Pour toi, pour moi, tu es dans la lignée des croyants. Et je veux faire de toi une nation de laquelle sortira mon peuple, le Messie. Je veux te bénir au-delà de ce que tu penses, de ce que tu considères. Et tu n'es même pas conscient que tu as tout compliqué pour qu'on y arrive à ce que je te bénisse. Seulement, moi, je suis le Tout-Puissant. Alors, je vais défaire les nœuds et je t'amènerai à la bénédiction. Et ça, c'est encourageant pour les uns et les autres. Combien de fois n'avons-nous pas fait des nœuds nous-mêmes? Et le Seigneur va nous aider non seulement à les défaire, mais à amener jusqu'à la bénédiction. Alors, quelqu'un dira, mais ça me gêne un petit peu. Parce que moi, je suis dans une situation où j'ai besoin que Dieu intervienne et vous me laissez entendre ce matin clairement, enfin, ce n'est pas moi du reste, qu'il y a autre chose à considérer avant. Hein, oui. La situation fait apparaître, parce que je suis secoué comme une bouteille, pour le coup, ce qui ne va pas. C'est l'histoire de tous les fonds de dépôt dans une bouteille. Quand ça s'est déposé, vous avez l'impression que l'eau est claire. Vous prenez la bouteille, vous la secouez, vous réalisez que « Ah, elle n'était pas si claire que ça. » Et ma vie, elle n'est pas si claire que ça. Il y a des choses qui se sont déposées au fond. Et que le fait que je sois secoué fait tout remonter. Ce qui ne va pas dans ma vie, les défauts, les problèmes. Et le Seigneur de dire « Je veux d'abord te sanctifier toi-même. » Te sanctifier, pardon. « Je veux d'abord t'assainir, te purifier. Après, on s'occupera du reste. » Voilà. Alors, si vous êtes secoué comme la bouteille, c'est peut-être l'étape préparatoire à ce qui suit, voyant qu'il ne le maîtrise pas. Dieu peut tout, et pourtant, il faut quand même admettre que parfois, il a du mal avec nous. Et pourtant, il peut tout. Mais voyant qu'il ne le maîtrisait pas, Jacob, c'est un personnage, hein. Il a son caractère, il a sa façon de voir les choses, de fonctionner. Il s'est d'ailleurs même fait prendre à son propre raisonnement, et ça lui a duré des années. Lui, il avait calculé Rachel, et il n'y a pas eu que Rachel, parce que les autres sont comme lui, ou lui, il est comme les autres. Le tonton, là-bas, il a le même gène. Jacob, tu as une façon de réfléchir à toi. Mais c'est génétique dans la famille. Donc, tu vas avoir affaire à Laban de la même manière. Voilà. Et il faut avouer que de temps en temps, avec nous, le Seigneur a un petit peu de mal. La première place dans ma vie, personne ne peut la prendre, parce que la première place, elle ne se prend pas, elle se donne. Elle ne se prend pas la première place, elle se donne. Et si je ne donne pas à Dieu la première place, eh bien, il ne pourra pas la prendre, voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Et Jacob a du mal à comprendre. L'apôtre Jacques dira, et il parle en connaissance de cause, puisqu'il est quand même le frère du Seigneur Jésus, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et quand je l'ai noté, je me suis dit, mais en fait, tout le monde fait l'inverse. On résiste à Dieu. Je ne veux pas dire qu'on se soumet forcément au diable, quoique, indirectement, c'est quand même la réalité. Si on ne se soumet pas à Dieu, forcément, on est soumis à l'état d'esprit de ce monde qui est inspiré de lui. Alors, une chose ou l'autre, soumettez-vous donc à Dieu ou résistez à Dieu. Mais si vous vous soumettez à Dieu, vous résistez au diable. Si vous résistez à Dieu, forcément, vous êtes dans la catégorie de ceux qui sont contre Dieu. Comment se pourrait-il que Jacob, dans la lignée qui est la sienne, puisse être contre Dieu? Mais le Seigneur le dira même à Pierre, qui pense être bien intentionné, arrière de moi, tu n'as pas les pensées de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voilà. Et la situation qui est devant toi, pour toi Jacob, devant rencontrer ton frère, tu essaies humainement de la raisonner, tu essaies humainement de la préparer, alors qu'elle ne peut se régler que spirituellement. Alors, si tu veux que les choses changent, soumets-toi d'abord à moi. Et je t'ai secoué pour qu'on en arrive là, mais il faut que ce soit toi qui abdiques. Et cet homme le frappa. Jacob deviendra boiteux et le restera. Si Dieu ne remporte pas la victoire sur nous-mêmes, nous sommes des vainqueurs perdants, spirituellement parlant. Si Dieu remporte cette victoire déterminante, alors nous sommes des vaincus, vainqueurs. Et là, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. C'est un paradoxe humain, mais c'est une vérité spirituelle. Avec Dieu, si je suis vainqueur, c'est parce que je suis vaincu par lui-même. Et si j'ai pu me laisser vaincre par le Seigneur, alors je vais être vainqueur dans toutes les situations de ma vie. Si je ne me laisse pas vaincre par le Seigneur, je vais être perdant dans toutes les situations de ma vie. Ça ne va pas se voir de suite. Mais à la fin, quand on va faire le total et les sous-totaux, dans ce domaine-là, au final, qui a gagné? Chaque fois que nous regrettons quelque chose, ça veut dire que je n'ai pas gagné. Je regrette. J'aurais voulu que ce soit autrement. Je regrette, je regrette, je regrette. Alors si vous ne voulez plus arriver à regretter, si vous voulez que ce principe, je vais dire si nous voulons que ce principe malin de l'échec à terme, de regretter s'arrête, eh bien maintenant soumettons-nous à Dieu et les choses vont s'inverser, je ne regretterai plus. Je ne vais pas comprendre, mais quand je ferai le total, je pourrai dire merci Seigneur, je ne regrette pas de t'avoir écouté. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Je ne regrette pas d'avoir attendu, parce que c'est toi qui tiens les temps et les circonstances. C'est une vraie lutte. Et Jacob doit accepter d'être vaincu. Là, on a un problème. Mais c'est une vraie lutte. Sur la croix, c'est une vraie lutte. Et le Seigneur accepte de passer pour un vaincu, pourra remporter la plus grande des victoires pour nous. C'est un principe spirituel. Si nous acceptons d'être vaincus par Dieu, nous remporterons toutes les victoires de notre vie. Mais il faut l'accepter, et humainement parlant, ça ne passe pas. Ce n'est pas dans notre schéma humain de fonctionnement. La conversion, c'est un combat que nous menons contre nous-mêmes. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est un vrai combat contre soi-même par rapport à ce que l'on avait compris jusque-là, à notre propre raisonnement jusque-là, par rapport à ce que l'on croyait, par rapport à ce qu'il se passe sur la croix. Mais même Naaman, il est en combat avec lui-même, mais il est général, donc ça ne le surprend pas, c'est son métier. Voilà. Seulement là, il doit perdre. Il n'aime pas perdre, Naaman, d'autant qu'il vient de gagner tous ces combats qui font que c'est le généralissime. Mais là, tu dois admettre d'être vaincu par la parole d'un prophète qui n'est même pas sorti de chez lui pour te parler. Tu dois être vaincu, ton orgueil doit être vaincu pour laisser la place à l'humilité. Ton raisonnement doit être vaincu. Oui, les eaux de la Banaille du Parpar sont peut-être de meilleure qualité, mais là, il ne s'agit pas de l'eau, il s'agit de l'obéissance. Et toi qui avais l'habitude de commander, maintenant tu dois obéir et tu dois être vaincu. Et il va prendre le coup qui va le marquer dans sa vie. Rappelez-vous le jour de votre conversion, badaboum, à genoux par terre, chaos debout, celui qui n'avait jamais pleuré est surpris de voir qu'il y a quelque chose qui coule. Il est vaincu, mais il n'est pas vaincu parce qu'il est allé jusqu'au bout dans le combat et il n'en peut plus. Il est vaincu parce qu'il accepte de prendre le coup, de recevoir la marque, d'être frappé de Dieu. Mais ce n'est pas un coup pour nous faire du mal, c'est un coup pour qu'on ait la marque de Dieu. Maintenant, il va s'accrocher et il va demander l'autre bénédiction. Bénis-moi. Bénis-moi. Quel est ton nom ? Alors, il va avoir une discussion entre eux. On ne va pas rentrer dans ce point-là. Si ce n'est que l'Éternel va lui dire, tu t'appelleras plus le trompeur, tu vas t'appeler vainqueur. Voilà. Et maintenant, Jacob entre enfin dans une autre relation entre lui et Dieu. Il n'y a plus de si, il ne dit plus rien même. Il est vaincu. Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes vaincus quand nous disons au Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas mon raisonnement, mais le tien. Non pas mes projets, mais les tiens. Voilà. Et le reste de sa vie va prendre une toute autre orientation. C'est très simple. Maintenant, Dieu passe devant et lui derrière. Avant, ils étaient ensemble, mais c'était inversé. Jacob passait devant et Dieu était derrière. Si tu me bénis, si tu es à côté de moi, si je reviens, tu seras mon Dieu, je te donnerai même la dîme de tout. Mais qu'est-ce que le Seigneur a à faire de la dîme ? Pourquoi Jacob parle de la dîme ? Parce que papy Abraham en a parlé. Forcément, quand il a raconté l'histoire, je suis revenu vainqueur de Kedor Laomer, j'étais parti juste avec des serviteurs, etc. Quelle victoire ! Et voilà la rencontre que j'ai faite. Waouh, papy ! Quelle rencontre ! Et comment il s'appelle ? Il s'appelle Melchisédek. Et si vous voulez l'explication de Melchisédek, vous allez dans l'Épître aux Hébreux. Quelle rencontre ! Alors il sait tout ça et il mélangeait tout à un moment donné. Mais là, il n'en parle même plus. Parce que il a compris que ce n'est pas la dîme qui appartient à Dieu. C'est tout. Donc il ne parle même plus de dîme. C'est tout. Avant, il calculait, maintenant, il ne calcule plus. Toute ma vie dépend de toi. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Et on va terminer. Jacob boitera de la hanche et marchera lentement au pas du troupeau. Ça change, hein ? Il n'était pas habitué à ça. Mais maintenant, il faut changer nos habitudes si nous voulons que Dieu passe devant. Alors, on va finir sur la conclusion et risque peut-être d'être surprenante. Je vous dis déjà la fin avant qu'on le développe. Un athlète pour Dieu, un vainqueur, donc c'est un athlète, pour Dieu, il est boiteux, aveugle, sourd et muet. Et là, c'est un vainqueur, spirituellement parlant. On n'est pas du tout avec les mêmes critères auxquels nous sommes habitués dans le monde quand on pense aux Jeux Olympiques. Quoique, entre nous, les Jeux Paralympiques qui suivent font apparaître qu'à mon sens, ils sont plus forts. Parce que rien que déjà ce qu'ils font, je ne pense pas qu'il y en ait un parmi nous qui puisse suivre. Et avec le handicap qui est le leur dans la catégorie dans laquelle ils sont, montrent qu'ils sont plus forts en mental, en engagement, etc. Alors qu'il y avait tout pour qu'ils soient vaincus, eux, qui ne sont pas forcément des croyants, ont relevé le défi. Donc c'est une autre façon de dire qu'être vainqueur, c'est être conscient que eh bien, nous sommes remplis de faiblesses et on a besoin de l'aide. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, un vainqueur pour Dieu, quelqu'un qui va marcher par la foi, ne va pas marcher par la vue. Il faut être aveugle pour marcher par la foi. Dans ce sens où on ne tient pas compte de ce que nos yeux voient. Voyez les murailles de Jéricho qui sont hautes et fortifiées. Ne perdez pas votre temps à les regarder. Parce que dans quelques jours, elles vont s'écrouler. Voilà. Ne regardez pas à l'apparence, mais regardez au cœur. Et ce piège nous guette tous, puisque même le Seigneur le dira au prophète Samuel, mais tu as regardé tous les fils d'Isaïe à l'apparence. Mais moi, j'ai regardé au cœur et il est là-bas derrière les troupeaux, celui que j'ai repéré. Ne fais donc pas toute attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Il faut être sourd, de temps en temps. Il faut être sourd de temps en temps. Il ne faut pas écouter les paroles de ce monde. C'est comme ça que tout est parti de travers. Parce que Ève et Adam ont écouté la parole de ce tortueux-là, qui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, il faut être sourd à certaines choses, même à notre propre raisonnement. Et puis, il faut être muet. Il y a des situations, il ne faut rien dire, parce qu'en plus, on ne sait plus quoi dire. Il n'y a plus rien à dire. Et dans ce cas-là, le Seigneur est capable de dire dans l'Épître de Pierre que certaines femmes ont gagné leur mari sans parole. Sans parole. Donc, je l'avais noté un jour, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, il vaut mieux parler à Dieu de nos enfants et de nos situations que de parler de Dieu à nos enfants, dans le sens où on leur rabâche les choses, et dans nos situations. Si vous avez fait ce qu'il fallait pour parler de Dieu à vos enfants et dans ces situations, maintenant vous arrêtez de parler aux enfants et aux personnes, et vous parlez à Dieu. Et du coup, vous passez pour un muet. On vous dit quelque chose, mais vous ne répondez pas. Alors qu'avant, vous répondiez. Et ça, c'est une vraie victoire à prendre sur soi-même. Il faut capituler pour en arriver là. Donc, un croyant est vainqueur quand il est avec Dieu et que Dieu lui permet de remporter des victoires. Mais un croyant est plus que vainqueur quand c'est d'abord lui qui est vaincu. Et dans notre vie, nous avons passé un temps où nous étions vainqueurs. « Oh, Seigneur, j'ai prié, tu as répondu. Quelle grâce !» Abraham revient vainqueur des rois de Kedor. Vous avez compris. Et quelle victoire ! Mais il faut que tu rencontres Melchisédek. Il faut que tu rencontres Melchisédek. Donc, l'athlète de Dieu, il est boiteux. Il est aveugle. Il est sourd et il est muet. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le Seigneur soit béni.